Alors, je me suis demandé de quoi j'allais vous parler ce matin. Pendant tout un temps, rien ne me venait à l'esprit. Blanc, blanc, blanc. Et puis, juste avant de commencer la préparation la semaine dernière, quand Jacques nous a montré comment fonctionnait Winazaf, etc., les mots sont venus. Et je me suis rappelé une phrase que j'ai dite bien souvent il y a des années. Une petite phrase que j'ai lancée vers le ciel. Seigneur, aujourd'hui quelqu'un. Seigneur, aujourd'hui quelqu'un. C'est ce mot qui me sont venus à l'esprit. À cette époque-là, je vivais à la communauté de la réconciliation, j'en étais membre, je faisais partie de l'équipe de l'évangélisation comme responsable avec d'autres, et puis on avait un bus café chrétien deux fois par semaine, on avait la bêche, et puis on faisait des concerts et on organisait aussi des sessions d'évangélisation sur les plages du Nord ou à Vallon-Pont d'Arc, etc. Et ça m'arrivait régulièrement de dire, juste avant de partir au café chrétien, dans d'autres circonstances, « Seigneur, aujourd'hui quelqu'un ». Et puis, en même temps, je nous ai revus, il y a environ 2-3 ans, quand il y avait Tony Sperantino qui était là, et puis il nous a dit, on va prier pour les chaises vides. Vous vous rappelez? On a prié pour les chaises vides, symbolique, hein? Nous avons alors prié pour que les chaises vides trouve des acquéreurs attitrés. Quelques-unes ont trouvé acheteurs ou locataires, mais il en reste encore pas mal de vide. Et surtout, un énorme pas de foi, on en a racheté 20. Hein? Vous voyez, les chaises vides, bénissons les 20 chaises qui viennent d'arriver en plus. Peut-être vous l'avez deviné, mais aujourd'hui je vais vous parler de l'évangélisation. Et l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire crin-crin d'il y a 20 siècles. Ça ne veut pas dire quelque chose de dépassé. Non, c'est une bonne nouvelle pour nous encore ici, dans ce 21e siècle. Vous savez pourquoi? Parce que avec la venue de Jésus sur notre terre, le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est devenu accessible. J'ai relevé dans les quatre évangiles, grâce à la Bible online, je ne vous le cacherai pas, 53 fois la phrase « royaume de Dieu ». Et qui en parle? Jésus, la plupart du temps. Le royaume de Dieu est comparable à. Si vous entrez dans le royaume de Dieu, ta. Et donc, ce que Jésus a fait en nous accordant ce royaume de Dieu quand il est descendu sur la terre, sa venue en tant que fils de Dieu, sa mort et sa résurrection, c'est vraiment cette descente du royaume de Dieu sur la terre. Mais cette mission, il l'a transmise aux disciples et il nous la transmet aujourd'hui. Je vous donne quelques références. Dans Luc 8, verset 1, Jésus venait de dire à la femme pécheresse qui avait versé du parfum sur ses pieds, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Puis il s'en est allé de ville en ville et de village en village, et il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans Marc 1, verset 15, Jean-Baptiste vient d'être arrêté. Les disciples de Jean-Baptiste demandent ce qui doit se passer, commencent à venir le voir. Et Jésus dit, « Le temps est accompli. et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dernier verset pour l'instant dans Luc 9, les versets 1 et 2. Jésus appelle les 12 et leur donne la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les malades. Puis il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. L'évangélisation, c'est donc encore aujourd'hui une bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ce mandat de l'évangélisation, il est donné à chaque chrétien. Chacun d'entre nous, nous avons reçu ce mandat de Jésus. Tiens, voilà ta mission. On peut avoir d'autres appels, les plus divers et variés, mais le mandat de l'évangélisation est pour tous. Simplement, ce n'est pas toujours quelque chose d'hyper compliqué avec... Non, on est témoin. Et alors je me suis dit, mais qui est mon exemple quand j'évangélise, quand j'annonce la bonne nouvelle ? C'est Jésus. Et pour moi, ce qui m'a paru important et ce qui me paraît important depuis 35 ans que je suis convertie, dans l'évangélisation, c'est de voir comment Jésus agit. Ce qu'il a fait, les paroles qu'il a dites, la façon dont il s'est positionné vis-à-vis des gens. Et je me suis dit, le regard de Jésus, son regard. Sachez, c'était bien caché là-haut dans son petit sycomore, son grand sycomore. Il était petit, on ne pouvait pas voir Jésus. Mais surtout, il n'avait pas trop envie d'être vu, hein. Le péager, notre inspecteur d'impôts d'aujourd'hui. Et Jésus le voit là-haut dans son sycomore. Et il voit jusqu'au fond de son cœur. Il ne voit pas seulement le Zachée qui prend des sous, etc. Il voit au fond de son cœur. Et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Hâte-toi de descendre. Arrête de te cacher. Moi, je t'ai vu et je ne te lâcherai pas. Que pensez-vous du regard de Jésus sur les malades quand il les a croisés, les malades en tout genre? Il nous a dit combien il avait compassion, son regard. Son regard sur la femme adultère, sur Marie-Madeleine, son regard vers le larron sur la croix, ou bien encore son regard sur Pierre. Pierre, après sa trahison, après la résurrection de Jésus, ce regard, c'est tellement important, un regard. Je dois vous dire que j'aimerais bien voir Jésus me regarder. Ça me ferait tellement plaisir. Mais je crois que c'est réservé pour là-haut. Puis j'ai pas envie de voir Jésus à travers le regard de Jésus de Nazareth ou d'un grand monsieur beau avec des yeux. Non, je veux voir le regard de Jésus plein de compassion. Mais ça, c'est réservé pour là-haut, je pense. L'écoute de Jésus, son oreille. Jésus savait écouter les personnes qu'il rencontrait. Les disciples en ont été témoins. Il entendait les besoins des gens. Seigneur, Seigneur, fais ceci, guéris mon fils. Seigneur, aide-moi. Puis il entendait aussi Jésus, les récriminations des disciples. Et moi, je, de Pierre. Moi, je. J'irai pêcher avant toi. Et puis il voit aussi les récriminations de Jacques et Jean. Quand tu seras dans ton règne, fais que nous soyons un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et toc, encore un petit truc, pas du tout ce que Dieu attend. Écouter, ce n'est pas une chose facile. Et je dois dire que je le vois en médiation familiale. J'essaye toujours de dire aux gens, je vous demande de vous écouter jusqu'au bout. Et je vais vous passer le bâton de la parole. Et vous allez vous le passer l'un à l'autre. C'est-à-dire que si vous écoutez l'autre jusqu'au bout et non pas jusqu'à 75% de sa phrase, vous allez pouvoir répondre sur les 100% de sa phrase. Et s'il vous écoute, ce sera non pas sur 75%, mais sur 100%. Et vous, vous ne serez pas écouté 50%. Et donc c'est toute une gymnastique aujourd'hui de dire aux gens, mais écoutez-vous, écoutez. Et je pense que dans l'évangélisation, il y a une double écoute. Il y a l'écoute de la personne qu'on a en face de soi, puis il y a l'écoute de la petite voix intérieure, de cette petite voix à travers laquelle l'Esprit Saint peut nous donner des pistes, des petits tuyaux pour rejoindre les personnes. Le toucher de Jésus. Troisième sens, le toucher. Combien de personnes Jésus a-t-il touché au cours de ses 3 années de ministère? 1, 5, 10, 100, 1000, on ne sait pas. On ne saura pas ici-bas. Je vous en laisse quelques exemples. Les lépreux, bien sûr. À l'époque, il était interdit aux lépreux de s'approcher des personnes saines. C'était une interdiction pour eux. Ils étaient les exclus, les bannis de la société. Et Jésus, lui, il se laisse approcher. Il les appelle. Et puis, il les touche. Vous vous rendez compte? Pour l'époque, il se rend impur en touchant un lépreux. Mais il les purifie et il les sauve. Je me rappelle quand on a commencé à parler du sida dans les années 80-90, je ne sais pas comment ça s'est passé ici à Source de Vie, mais je sais qu'il y a des églises où on a commencé à voir fleurir les petits gobelets, hein, pour la scène, un gobelet pour chaque personne. Ou bien on trempait le pain pour ne pas contaminer ou être contaminé. Et je me rappelle qu'il y avait un jeune qui maintenant est décédé, qui avait le sida. Et il me disait combien le moment du repas du Seigneur était pour lui un temps d'injustice. Il se sentait mis à l'écart. Et c'était une souffrance pour lui. Et j'avais mal pour lui, je dois dire. Jésus, avec l'homme sourd et muet, Jésus va le prendre à l'écart. Il va lui mettre les doigts dans les oreilles, prendre de la salive, toucher sa langue. Vous vous rendez compte? Je mets mes doigts dans les oreilles, prendre la salive, je mets sur la langue. Et il dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Le toucher de Jésus est particulier. Il y a quelque chose de bouché dans les oreilles et parfois dans les oreilles spirituelles. Il y a quelque chose de lié dans la parole des personnes à cause d'interdits ou à cause de choses diverses. Pas seulement les sourds et muets, non, il y a autre chose que Dieu veut nous dire là, que Jésus veut nous dire. Il faut déboucher certaines oreilles. Le royaume de Dieu ne peut pas être entendu par certains parce qu'ils ont les oreilles bouchées à cause de choses douloureuses qu'ils ont vécues, entendues. Ou bien, on a besoin de délier leur parole parce qu'elle a été nouée. Dans le cadre de mes études FERACPA, j'ai appris que c'est important de ne pas toucher une personne sans avoir sa permission pour prier. Parce que quand je prends quelqu'un par derrière et je lui dis « je vais prier pour toi », bing ! Mais pour certaines personnes, c'est un abus. Ces limites sont à nouveau transgressées. Et ça, c'est important. Demander la permission de toucher, être respectueux. Je sais que pour moi, que ça a été quelque chose de nouveau. M'arrive encore de faire des bêtises, mais bon. J'essaye de demander aux personnes si je peux les toucher. Une autre chose que Jésus va faire, c'est qu'il va parler. Et il va parler, mais souvent très courtement. L'apôtre Jean va commencer son évangile en disant « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Quand Jésus parlait à quelqu'un, il se passait toujours quelque chose. Aux premiers disciples qui ont quitté Jean-Baptiste pour le suivre, Jésus a dit « Que cherchez-vous ?» C'est vrai qu'ils cherchaient quelqu'un d'autre que Jean-Baptiste, ils n'avaient plus de chef, donc il leur fallait un nouveau chef, c'était normal. Il leur dit simplement « Venez et vous verrez. » Et parfois dans l'évangélisation, c'est important de dire aux personnes « Viens voir ». Et tu verras par toi-même. Viens vérifier par toi-même. Plus tard, Jésus va dire à Simon-Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Et en changeant son nom, qui était Céphas, qui était Simon, il l'a appelé Céphas, donc Pierre, Jésus dit à Pierre, « Je veux changer ton cœur. » Je veux vraiment t'appeler à être quelqu'un sur qui on peut compter. À Bartimée, vous savez le mendiant qui crie « Jésus, Jésus, aie pitié de moi !» Vous savez ce que Jésus dit ? « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Imaginons la scène. La foule, des dizaines et des dizaines de gens, les disciples qui sont comme les gardes du corps autour de Jésus, ceux qui empêchent, qui veulent empêcher le mendiant de parler, de manifester, et puis Jésus. Et Jésus dit, mais appelez-le. Jésus ne va pas vers le mendiant. Il dit, appelez le mendiant. Et donc il va faire en sorte que le mendiant se lève de sa position d'assisté, de mendiant, pour être un homme debout. Vous voyez ce que fait Jésus ? Il l'appelle. Et après, il lui dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi ? Un mendiant qui ne voit pas, qui est paralysé, ou qui se dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et lui permet de dire sa demande. D'ouvrir sa bouche et d'oser parler. Et il va lui dire, le mendiant va dire, mais que je recouvre la vue. Et là, il dit, ta foi t'a sauvé, pas ta foi t'a guéri. Mais très souvent, quand les gens demandent une guérison physique, Jésus rapporte à la guérison spirituelle. Ta foi t'a sauvé. Le pardon des péchés et la guérison physique vont souvent de pair. Jésus mettait en avant le besoin spirituel des personnes qui avaient aussi un besoin physique. Or, très souvent, moi j'ai vu des grandes affiches dans l'île ou ailleurs pour des grandes campagnes d'évangélisation où il était écrit « Venez et vous serez guéris ». Venez et vous serez guéris. Pas venez et vos péchés seront pardonnés. Pas venez, repentez-vous. Non, venez et vous serez guéris. Et donc on peut se tromper de cible et on peut très très bien, donner une nouvelle qui n'est pas la vraie, vraie bonne nouvelle. La guérison est une bonne nouvelle, mais le pardon des péchés, la possibilité d'être enfant de Dieu, la possibilité d'avoir dès maintenant la vie éternelle, ça c'est la bonne nouvelle, la meilleure de toutes. L'odorat. Alors l'odorat, c'est aussi quelque chose de particulier. Hein. Jésus a dû voir des gens qui rencontraient des gens qui ne sentaient pas la rose, hein, qui ne sentaient pas parfum Coco Chanel ou autre, hein, eau de Lancôme, j'ai vu dans ta salle de bain. Non, Jésus était prêt à se coltiner les mauvaises odeurs. Et nous. Moi, je me rappelle à la Belge ou au Café Chrétien. Au début, c'était dur. C'était dur. Et je revenais avec une odeur un peu bizarre. Et puis, je dois dire que j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des sinusites à répétition et donc mon odorat en a pris un coup. Mais franchement, au début, je dois dire que j'ai dû m'accrocher. Puis j'ai surtout dû changer mon attitude de cœur. Parce que les personnes qui étaient devant moi, et il y en avait qui étaient là régulièrement, mais j'avais besoin de comprendre qu'ils avaient eux aussi besoin du salut. Que le salut, la bonne nouvelle, était pour eux aussi, pour elles et pour eux aussi. La posture de Jésus, ça m'a aussi beaucoup interpellée. Avec la Samaritaine, par exemple, Jésus va se placer dans une situation de besoin. Il est 3h de l'après-midi, il est fatigué, il a mal aux pieds, il s'assoit au bord d'un puits et il a soif. Et la femme samaritaine qui vient à 3h de l'après-midi, vous savez ce qu'il lui dit ? Donne-moi à boire. Il se met en situation de besoin. Ça, c'est tellement important. Et en fait, après tout un dialogue hein, sur ce que sont les Samaritains, les Juifs, le royaume, hein, qui n'est pas donné à tel, etc., elle va accepter que c'est elle qui a soif. Qui a une soif spirituelle qui n'est pas comblée. Il aurait pu lui dire, « Eh bien oui, si tu es au puits à cette heure-ci, à cette heure de la journée, c'est parce que tu as honte, c'est parce que tu ne veux pas rencontrer les autres femmes du village. » Bien, d'un ton accusateur, comme les scribes et les pharisiens, tu te rends compte, tu as déjà eu 4 maris. Et te voilà avec un cinquième homme. Tu n'as pas l'impression d'être un peu une cougar avant l'heure ? Il aurait pu lui dire ça, comme il aurait pu lui dire bien des choses. Mais non, il lui dit, j'ai soif, donne-moi à boire. Et la bonne nouvelle pour la Samaritaine, c'est que Jésus est venu pour sauver et chercher ceux qui étaient perdus, pas ceux et celles qui se sentent très bien dans leur godasse et qui vont haut la main en disant « Je suis sauvé ». Non. Pareil avec la femme adultère, Jésus se met par terre. Vous imaginez le Fils de l'homme, le Fils de Dieu à 4 pattes dans la poussière en train d'écrire je ne sais quoi, pour être à la hauteur de la femme, qui certainement est par terre parce qu'elle craint d'être lapidée par les scribes et les pharisiens. Donc elle est peut-être déjà dans sa position de repli, de protection. Il a la posture de l'humble serviteur dont il est question dans Ésaïe 53. L'humble serviteur. Alors, j'aborde maintenant quand évangéliser. Moi, je me rappelle, Seigneur, aujourd'hui quelqu'un. Quand évangéliser ? Mais quand je me sens prêt, prête à dire, ce matin, Seigneur, je te demande quelqu'un à qui je vais partager un peu de toi, à qui je vais parler de ton salut. À qui je vais dire une partie de mon témoignage. Oh, pas un truc tout organisé avec 10 points, 50 références bibliques, et puis au nom de Jésus, repens-toi, tralali, tralala. Non, parfois un petit quelque chose. Et au Café Chrétien, moi j'ai réalisé que pour certaines personnes qui voyageaient, j'étais qu'un petit maillon sur une chaîne. Et à tel endroit, ils avaient entendu parler de Dieu. À tel autre, on leur avait donné un évangile. À tel autre endroit, on les avait invités lors d'une agape, un dimanche. Voilà. Petit maillon, parfois sur une chaîne, parfois plus. Comment évangéliser? J'ai pensé à quatre mots clés. Avec amour, avec sagesse, avec foi et avec humilité. Vous rajouterez les mots qui vous viennent à l'esprit. Évangéliser avec amour, comme Jésus, notre modèle. C'est l'amour, c'est la compassion qui ont conduit Jésus à descendre du ciel sur la terre, qui a conduit Jésus de la terre à la croix. Et c'est l'amour qui doit nous conduire à annoncer la bonne nouvelle. C'est l'amour, la compassion pour les perdus. Un exemple biblique, vous vous souvenez de ces quatre hommes qui sont montés sur un toit, qui ont démonté une partie du toit et qui ont amené leur ami auprès de Jésus. Vous savez ce que leur dit Jésus? Voyant leur foi, il dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il voit la foi des quatre et il pardonne le péché du paralytique qui, à mon avis, venait pour une guérison physique. Scotché. Mais je suis convaincue que le paralytique est reparti avec ses péchés pardonnés et certainement en prenant sa natte et en descendant comme tout le monde. Annoncer la bonne nouvelle avec sagesse. À nouveau, je nous encourage à regarder Jésus. Quand il parlait dans les synagogues, les scribes et les pharisiens disaient, ils étaient surpris, car Jésus parlait avec sagesse et autorité. Il parlait avec sagesse et autorité. Et nous avons la possibilité de demander. Il nous est dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la. Si vous manquez d'autorité, demandez-la. Si vous manquez d'amour, demandez-le. Réclamez-le au Seigneur. En fait, la sagesse va nous aider à dire la bonne parole au bon moment à la bonne personne. La bonne parole au bon moment à la bonne personne. Annoncer la bonne nouvelle avec foi. La foi doit accompagner toute annonce de la bonne nouvelle. J'ai besoin de croire que quand j'annonce Jésus, comme il l'a promis, il est avec moi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit doit me permettre de voir la situation comme elle est, au-delà des apparences. Le Saint-Esprit doit pouvoir m'inspirer une parole, un geste, une action qui vont rejoindre la personne mieux que de longs discours. Je me rappelle une fois, j'étais avec Gérard dans les rues piétonnes, on se baladait, on parlait, etc. Puis il rencontre un copain, vous savez qu'il en a beaucoup. Et puis on commence à parler, puis à un moment donné, j'utilise une image, l'image d'une sorte de tableau, une sorte de broderie qu'on voit de derrière. Et de derrière, ben, on voit que des fils qui dépassent, et puis c'est pas terminé. Ça n'a pas de forme, ça rien. Et je lui dis, mais quand on regarde le tableau du bon côté, comme Jésus le fait avec nos vies, on voit l'essentiel. Et on ne voit pas les petits ratages, les petits fils qui... Voilà. Et on s'en va. Et Gérard m'a dit, ben, tu sais, ben, waouh, tu sais à qui tu parlais ? À un peintre. Et donc tu l'as touché quand tu lui parlais de ce tableau. Parce que ça le rejoignait. Lui, il sait que quand il commence à barbouiller trois petits trucs, etc., c'est pas fini. Mais dans sa tête, dans son cœur, il a déjà le tableau tout entier. Et Jésus, avec nos vies, il a aussi le tableau tout entier, le tableau achevé. Annoncer la bonne nouvelle avec humilité. L'humilité devrait être notre moteur, vraiment. En préparant cette prédication, je me suis souvenue d'un pasteur anglais, Charles Marsh, peut-être certains en ont entendu parler. C'est quelqu'un qui, avec sa femme, a été missionnaire plus de 20 ou 30 ans dans les pays du Maghreb. Et il n'a pas vu beaucoup de résultats. Mais on sait maintenant qu'il y a des églises dans tous les pays. Et peut-être certaines grâce à leur témoignage, grâce à leur enseignement. Et Charles Marsh nous disait, n'oubliez jamais, l'important ce n'est pas le messager, c'est le message. Et je n'ai pas oublié, l'important ce n'est pas le messager, ce n'est pas Colette, ce n'est pas Jean-Luc, ce n'est pas Romain, ce n'est pas Christine. Non, c'est le message, c'est Jésus. Donc je vous ai dit tout à l'heure, la bonne nouvelle, quand on dit au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui quelqu'un, ben, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un collègue ou une collègue de travail. Ça peut être un voisin par-dessus une haie. Ça peut être la boulangère. Ça peut être dans un train, on lit sa Bible et puis la personne à côté nous pose des questions. Ça peut être notre famille. Parfois c'est un peu compliqué là. Hein? C'est notre conjoint ou conjointe non chrétienne. Ce sont nos enfants, ce sont nos belles-mères et nos beaux-pères et... Pas facile, hein, parce qu'ils nous connaissent, eux. Ils nous connaissent au quotidien, puis ils savent ce qu'on est, ils savent ce qu'on fait. Leur annoncer l'évangile, c'est... on se lance. Hein. Alors, je vous dis ça en passant, mais Christophe est un as pour arriver à placer des choses qui vont amener les gens, dans le cadre de son travail d'inspecteur du permis de conduire, à réfléchir et à se poser les questions sur l'Évangile. Dans ce cadre-là, il a dit des choses dans la voiture, et des gens ont été touchés par certaines choses, mais surtout avec deux moniteurs auto-école, il a rendu témoignage. Et l'un a fait le cours Alpha à Thumri, et un autre est venu déjà trois fois à la maison, est venu au culte à Noël. Vous voyez ? Mais bon, c'est dans un cadre laïque, cool, entre deux clients, entre deux candidats. Il laisse un petit quelque chose. Alors, quelques outils. D'abord, je pense que quand on annonce la bonne nouvelle, il faut avoir quelque chose à donner. Donner une invitation, comme le passage d'un témoin. Passe un témoin comme pour une course de relais. C'est pas un matraquage en oups. C'est pas un matraquage en 10 points. C'est une chose sérieuse. Mais l'annonce de l'Évangile doit se faire dans la joie, dans le respect et dans la convivialité. C'est un mot qui me tient à cœur. Être dans la convivialité. Nous sommes appelés à être des témoins et le petit prince parlerait d'allumeurs de réverbère. Nous sommes des allumeurs de réverbère. Nous apportons la lumière du royaume dans les ténèbres. Alors, on peut inviter une personne à un événement particulier, Noël, Pâques, une soirée cabaret, la projection d'un film, j'en ai toujours un à faire passer, lors d'un culte, lors d'un groupe de maison. On peut expliquer aux personnes ce qu'est le cours Alpha, on peut les y inviter à y participer, on peut les inviter à un repas chez soi. C'est important aussi de pouvoir donner son témoignage en quelques minutes. À la plateforme, par exemple, plusieurs l'ont fait, dans le cadre de mission évangélisation, il est question de pouvoir donner son témoignage ou celui de quelqu'un d'autre en 2, 3, 5, 10 minutes. Ça, c'est important pour moi. Être prêt à dire des choses importantes, essentielles, et à ne pas, à savoir terminer, parce que souvent, on ne sait pas mettre un point final. Et c'est important d'avoir une petite phrase qui termine. Ça peut être un verset biblique, voilà. Mais ce qui me paraît aussi important, c'est comme Jésus, il nous est nécessaire d'écouter. Et dans notre monde de surcommunication, orale, écrite, on n'a jamais eu autant de moyens de communication, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui n'ont personne à qui ouvrir leur cœur. Personne à qui ouvrir leur cœur. Et la communication réelle, c'est pas de dire sa vie sur la toile, comme disent les jeunes. C'est pas de faire un show où on, style télé-réalité, on raconte sa vie. Non, c'est pas ça. C'est avoir quelqu'un à qui je vais pouvoir ouvrir mon cœur. C'est l'essentiel. Pour moi, l'évangélisation, ce n'est pas réciter mon petit catéchisme protestant. Mais c'est être là, gratuitement. Et puis, il faut laisser une trace, un peu comme les cailloux blancs du petit poussé. Ça peut être nos coordonnées, mais avec sagesse. Hein. Une femme seule ne va pas inviter un homme seul. Ça peut être les coordonnées de source de vie, ou les coordonnées du site de source de vie, ou bien celles d'une église quand les gens habitent loin, etc. Laissez une trace. Laissez aussi un traité, laissez un évangile, laissez... Il y a plein de choses en fait qu'on peut donner. Hein. Un livre de témoignage, un Nouveau Testament, tout ça c'est important. Le journal Alpha peut être utilisé. Il y a plein de témoignages. Puis il faut être inventif. Et je dois dire que nous sommes créés à l'image de Dieu. Il est créateur. Donc nous sommes aussi créateurs. Et nous pouvons inventer des choses. Et je pense que ce don de la créativité dans l'annonce de l'évangile, elle est essentielle. Et puis après, je termine sur une note un peu champêtre, vu que c'est bientôt le printemps. Il nous faut prendre l'arrosoir de la prière. L'arrosoir de la prière, c'est se dire qu'après avoir planté une graine, il ne faut pas la laisser se dessécher, mais qu'il faut l'arroser. Et régulièrement, on va prier pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos collègues, pour nos amis, pour le voisin. Voilà. On va être cet arrosoir de la prière, tout seul, en binôme de prière, avec un groupe, quand on prie ici à l'église. Voilà, on va essayer de... Moi, ce qui me parle, c'est que quand je me suis convertie, il m'a fallu 9 mois. 9 mois, c'est long, hein, pour la personne qui a commencé à planter la graine. Ben, c'est comme une naissance. Ma nouvelle naissance a pris 9 mois. Parce qu'il fallait que Dieu travaille. Et il m'a parlé à travers ce verset que Jean-Luc a dit tout à l'heure, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et on peut utiliser d'autres versets bibliques clés qui peuvent parler. Ésaïe 53, Jean 3, 16, etc. Il y a plein de choses qu'on peut recevoir et qui sont des outils. Puis il faut savoir que la prière ouvre des portes dans le ciel. La prière active quelque chose dans le ciel. Et ça permet que la bénédiction du Seigneur repose sur tous les domaines de la vie de la personne, jusqu'à ce qu'elle soit prête à se donner à Jésus. Alors, après mon grand laïus, je vais vous laisser avec cette phrase. Osez dire, Seigneur, aujourd'hui quelqu'un. Et nous aurons nos chaises qui vont se remplir non pas seulement pour les grandes occasions, mais prions pour la chaise que nous avons à côté de nous, à gauche ou à droite, ou là sur le côté où il n'y a jamais personne. Prions pour que ces chaises se remplissent et que des hommes et des femmes quittent les ténèbres pour venir à la lumière et soient sauvés. Amen.